des collections du château de Versailles pendant la guerre. Alors, concernant votre parcours, donc vous êtes docteur en histoire de l'art, diplômé d'études supérieures de l'École du Louvre. Pendant 4 ans, vous avez travaillé à l'Institut national d'histoire de l'art où vous avez été chargé d'études et de recherche. Durant les 9 dernières années, vous avez été au service des expositions du château de Versailles. Vous avez occupé de toutes les expositions temporaires. Et là, depuis novembre, vous avez rejoint le service de la conservation en tant que chargé de mission.
Collaboratrice
scientifique. Voilà, vous travaillez sur l'étude du château Versailles à l'époque contemporaine. Donc, l'année prochaine, vous allez publier notamment un ouvrage sur l'histoire du château sous l'occupation. Donc, on espère qu'on aura le plaisir de vous accueillir de nouveau pour faire ce
Merci beaucoup. Avant de vous parler de Gaston Brière, je souhaitais vous dire deux mots sur ma rencontre il y a plusieurs années déjà. Non pas avec Brière en personne, vous vous en douterez, mais avec son héritage scripturaire. Cette rencontre est intervenue en 2004, lorsque j'étais chargée d'études et de recherches à l'INHA, donc l'Institut National d'Histoire de l'Art. On me confiait alors l'archivage de plus d'une douzaine de cartons, issus d'un legs concédé dans les années 1960 par son épouse, Clotilde Brière-Misme. Et à cette occasion, j'ai découvert ce fonds totalement inédit contenant les papiers de travail de son mari, classés dans de multiples pochettes. Ces archives entretiennent un rapport étroit avec la carrière de Gaston Brière. Elles sont notamment constituées d'une riche correspondance avec ses collègues conservateurs, ses prédécesseurs, ses successeurs, mais également des architectes et des historiens d'art. Parmi elles, j'y ai trouvé des lettres échangées durant la Seconde Guerre mondiale qui présentent un intérêt tout particulier pour la connaissance du domaine royal et de ses collections lors de ces années troubles. Elles ont constitué par la suite le fil rouge de mes recherches menées dans plusieurs fonds d'archives en France et en Allemagne, et elles seront aujourd'hui l'objet principal de cette communication. Pour une formation académique exemplaire, né en 1871 dans un milieu bourgeois relativement aisé, Gaston Brière est issu d'une famille d'historiens. Alors, il a un oncle journaliste, Hippolyte Vasselet, et un autre oncle dont vous avez la photographie à l'écran, photographié par Nadar, qui est professeur à l'école des Chartes, Auguste Vallée de Viroudille, qui décède alors certes 2 ans avant la mort de Gaston. Toutefois, c'est un personnage, vraiment une figure qui aura une influence très importante sur le jeune garçon, notamment à travers sa tante Claire Vallée de Viroudille, qui va lui léguer par la suite toute la bibliothèque de son oncle. Après l'obtention de son baccalauréat, obtenu à 22 ans en raison des matières scientifiques qu'il n'appréciait guère, il se dirige vers des études supérieures d'histoire et de géographie à l'Université de la Sorbonne. Il est également formé à l'École des hautes études en sciences sociales, puis à l'École du Louvre. Il rencontre, durant ses années de formation, plusieurs professeurs ou maîtres qui influencèrent notablement le jeune homme. Parmi eux, l'historien d'art et médiéviste français Louis Courageau, qui justement va entretenir chez Gaston Brière un véritable intérêt pour le Moyen-Âge, et toute sa vie, on aura une appétence de Brière à la fois finalement pour ce monde médiéval, mais également pour l'art classique et notamment l'art versaillais. C'est une période durant laquelle il tisse des amitiés qu'il conservera toute sa vie, notamment Paul Vitry et Jean-Joseph Marquet de Vasselot. Et quand vous dépouillez la correspondance de Brière, vous n'imaginez pas le nombre de lettres que l'on peut retrouver, ça se compte par centaines et centaines, et notamment avec Paul Vitry et Jean-Joseph Marquet de Vasselot, il y a des lettres durant plusieurs décennies, ce qui permet également de reconstituer toute la carrière de Brière à travers cette correspondance. Ses premières publications remontent à 1899, il a alors 28 ans. Il fonde avec Pierre Caron notamment et Philippe Sagnac la revue d'histoire moderne et contemporaine. Alors, ses débuts à Versailles et la Première Guerre mondiale. En 1903, il est alors âgé de 32 ans, il est nommé attaché au musée de Versailles auprès de Pierre de Nonac. Vous avez ici la photographie. jusqu'à 1911. Il y a une amitié entre les deux hommes qui continuera jusqu'à la mort de Nolac en 1936 et se poursuivra avec son fils Henri. Vous avez ici une lettre justement qui provient du fonds de l'INHA, une lettre de Nolac à Gaston Brière du 13 décembre 1906. Vous voyez qu'il appelle mon cher ami, donc il y a une véritable amitié entre les deux hommes. Alors au départ, Gaston Brière est ce qu'on appelle un attaché libre, c'est-à-dire qu'il ne recevait aucun traitement et cela dura pendant près de 7 ans. Et les 8 années suivantes, il perçut un modeste salaire. Toute sa vie, Brière poursuivit son activité dans le monde muséal, mais aussi une carrière très importante dans l'enseignement supérieur. Entre 1909 et 1915, il est professeur à l'École spéciale d'architecture. Entre 1911 et 1938, il devient professeur à l'École du Louvre. Pendant 24 ans, il va occuper 3 chaires successives, notamment une chaire qui s'intitulait « Formation et développement des collections royales et princières ». Et pour ceux qui connaissent les modules de l'École du Louvre actuelle, si vous voulez, c'est un peu lancé de la spécialisation architecture et décor des grandes demeures royales. On est vraiment dans ce sillage-là. Parmi ses anciens élèves, plusieurs sont devenus célèbres dans le milieu, notamment Germain Bazin, futur conservateur en chef du département des peintures du Louvre. Alors je vous épargne toutes les activités en tant que qualité de professeur. En 1929-1934, il est chargé de conférences à l'Institut d'art et d'archéologie de l'Université de Paris. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il a 43 ans. Il est mobilisé entre 1915 et 1916 et envoyé dans une caserne du côté de Chartres. Heureusement, des problèmes de myopie, dangereuses pour ses propres camarades. Il était incapable de viser correctement une cible, l'écarte de la zone de combat. Il est donc nommé, entre 1916 et 1918, secrétaire aux archives et documents de guerre au Val-de-Grâce. Et durant cette période, il va collaborer à la formation du musée du service de santé militaire. Vous avez une photographie à l'écran. Entre 1918 et 1920, il est nommé conservateur adjoint au département des peintures du musée du Louvre, dont il va constituer un inventaire raisonné des collections. Mais l'essentiel de la carrière de Brière se jouera bien non pas au Louvre, mais à Versailles. En 1920, à l'âge de 49 ans, donc au moment du départ de Nolac, il devient conservateur adjoint auprès d'André Perraté. Vous avez également une lettre ici d'André Perraté à Gaston Brière, qui date du début de la guerre. Le conservateur en chef et son futur adjoint vont vraiment échanger. Perraté racontant finalement tout ce qui se passe durant ces années de guerre. Spécialisé sur la peinture. Donc il va connaître la vie du mécénat, des années fastes du mécénat Rockefeller, donc dans les années 1920. En 1925, 5 ans plus tard, il épouse son ancienne élève de l'école du Louvre, Clotilde Nisme, qu'il rencontre en 1911. Spécialisé sur la peinture des écoles du Nord, et notamment hollandaise, ils ont 18 ans de différence. Et à l'âge de 54 ans, Gaston Brière quitte sa mère, avec laquelle il vivait jusqu'alors, pour s'établir à Versailles avec sa femme de 36 ans, dans son appartement de fonction, situé dans l'aile des ministres au sud. En mars 1933, il accède au poste suprême de conservateur en chef, en succédant à André Perraté. Vous avez ici vraiment son portrait en 1933, donc à l'âge où il accède à ce poste. Il est donc âgé de 62 ans. Dans cette tâche, il entend poursuivre la réorganisation du musée, initiée par ses prédécesseurs. Dans une lettre à Jean-Jacques Marquet de Vasco, en 1936, il déclare « Je désire faire passer en première ligne la conservation des œuvres d'art formant le véritable musée. Je veux, sur ce point, continuer, achever, si possible, l'œuvre de notre patron Nolac. Je me considère comme détenteur d'une tradition. » C'est aussi ici le signe, à travers ce témoignage, toute l'humilité qui était la sienne. Il se positionne toujours finalement par rapport à une tradition, et notamment celle de Nolac et de Perraté. Outre la poursuite de cet héritage dans lequel il s'inscrit pleinement, On lui doit la restitution à leur emplacement d'origine de plusieurs toiles, à la fois dans le salon de Diane, mais aussi dans la salle à manger de Louis XV au petit Trianon qu'il affectionnait tout particulièrement. Il va également poursuivre la politique de réameublement et de reconstitution des salles dans leur état d'ancien régime. Il témoigne enfin également d'un souci relativement inédit jusqu'alors, tout au moins à Versailles, de confort du visiteur et d'une vision muséographique, discipline alors naissante à l'époque. Alors il travaillait à l'époque en tandem plus ou moins heureux avec l'architecte en chef Patrice Bonnet. En 1937, la fréquentation du château de Versailles est exceptionnelle, notamment à la faveur de l'exposition internationale. En quelques mois seulement, près d'un million de personnes arpentent ces grands appartements, dont les flots pressés, sont les termes mêmes de Bruyère, lui évoquent ceux d'une invasion pacifique. Dans le même temps, le musée célèbre le centenaire de sa création par Louis-Philippe à travers une exposition consacrée à 2 siècles d'histoire de France. Vous avez ici l'affiche de cette exposition, donc 1589-1789, qui remporte un important succès populaire. Cet anniversaire entraîne également l'octroi de nombreux crédits pour le musée. Mais l'heure de la retraite a sonné pour Gaston Bruyère dès la fin 1937 et finalement en 1938. Il est contraint à une retraite forcée. Il vivra néanmoins les derniers feux de sa carrière, la réception des souverains britanniques à l'été 1938. Donc vous voyez ici une illustration dans la Galerie des Glaces. Alors quels seront ses successeurs ? Bien évidemment, le présupposé à sa succession est Charles-Maurice Chaubeaupré, qui était son adjoint, élève de Nolac, qui intègre la conservation du musée dès 1919. Il y avait également d'autres adjoints et proches collaborateurs de Bruyère, André Chanson ou bien Pierre Pradel. Et finalement, c'est Pierre Ladoué qui va être nommé à la place, en tous les cas, de l'héritier légitime, Maurice Chaubeaupré. C'est l'ancien adjoint de Louis Hautecoeur au musée d'art moderne et qui sera présent donc, durant les premières années du conflit de cette seconde guerre mondiale. Alors, il faut bien comprendre que cette préparation à la guerre se prépare depuis le début des années 30. Il y a une mise en place à la fois par Bruyère et Maurice Chaubeaupré pour le musée et par Patrice Bonnet, l'architecte en chef, de toutes finalement les mesures de protection et le grand chef d'orchestre de toute cette organisation et Henri Verne, directeur des musées nationaux, mais surtout son adjoint Jacques Jaujard, on met la photographie ici à l'écran. Qui va vraiment organiser tout l'exode des collections nationales au moment du déclenchement des hostilités. Donc malgré son départ à la retraite en juillet 1938, on confia à Bruyère, au mois de septembre 1939, la direction d'un important dépôt des musées nationaux aménagé dans le château de Brissac. Alors, je vous ai mis ici une carte des dépôts. Alors entre 1940 et 1942, malheureusement, l'impression que ce n'est pas très visible. Donc, en tous les cas, l'intégralité des dépôts se trouve en zone occupée à un moment de l'invasion allemande. Les principaux dépôts, j'ai pas de compteur, mais je vais peut-être me rapprocher de ça pour vous indiquer tout cela. Vous avez deux types de dépôts, les dépôts qui concernent les collections du musée, qui vont être évacués en priorité sur Chambord, et ensuite ces collections vont être réparties sur Brissac, et à partir de mai 1940, vous avez également le dépôt de Sourche qui est juste à côté du Mans. Et le deuxième type de dépôt, c'est tout le décor du château, tous les lambris qui vont être complètement démontés par l'architecte en chef et évacués dans d'autres châteaux de province, notamment à Beauvais, vous en avez au château de Serrant, également à côté d'Angers. Donc vous voyez tout ce secteur-là, c'est vraiment les collections de Versailles qui vont partir en exode. Et Versailles, c'est, je n'ai pas mis de photographie, mais Versailles était une ville qui vit au moment de l'arrivée des Allemands. 400 œuvres du musée, le château de Brissac constituait le principal dépôt du musée dont il offrait une véritable réserve. Implanté sur la commune de Quincé, à proximité d'Angers, ce château du XVIIe siècle, au profil médiéval très élancé, était réquisitionné à Pierre de Cossé-Brissac dès le 22 septembre 1939, contre une indemnité annuelle de 20 000 francs. Outre des collections versaillaises, le château de Brissac abritait entre autres celle du musée Nissine de Camondot, des arts décoratifs, du musée Gustave Moreau, de l'Académie française, du Palais de l'Élysée, du Sénat, des ambassades d'Argentine et de Grande-Bretagne, mais aussi de collectionneurs privés comme Maurice Denis ou Paul Valéry. À Brissac, l'ancien conservateur de Versailles était entouré de sa femme. Ah, vous avez une autre carte postale ancienne du château. Donc là, vous avez une photo de son épouse à peu près à l'époque de leur séjour à Brissac, du régisseur du château et de 7 gardiens des musées nationaux, dont une majorité de Versailles. Durant les premiers mois, il reçut l'assistance temporaire de Paul Alfassa, conservateur du musée des arts décoratifs, qui ne résidait cependant pas sur place, contrairement au couple Brière. Ces derniers recevaient parfois la visite de la famille de Cossé-Brissac, qui continuait à utiliser une partie non réquisitionnée du château. Malgré les charmes de la demeure aux allures médiévales, l'aménagement du dépôt suscitait de nombreux problèmes d'ordre technique, notamment d'électrification et de chauffage. S'il lui manquait une grande partie du confort moderne, le château présentait l'avantage d'être situé à proximité de l'Aubance, c'est la petite rivière qui est située au pied du château. Voilà, pouvant constituer une réserve d'eau en cas d'incendie. Je vous ai mis quelques pièces du château. Les œuvres de Versailles étaient stockées dans le grand salon du rez-de-chaussée. Donc ici, vous avez le grand salon avec aussi une carte postale d'époque. Mais également à l'étage du château, notamment dans la galerie. Je vous ai mis aussi une carte postale et une vue du contemporaine, ainsi que dans les bâtiments annexes du parc, notamment dans les écuries. Alors, je n'ai pas retrouvé de reproduction plus ancienne que cette photo qui date de cette année. Certains convois arrivaient directement du château, tandis que d'autres faisaient un détour par Chambord. Parmi les œuvres les plus célèbres de Versailles, y figuraient les pendules de Passement, donc la pendule astronomique, la pendule dite de Louis XIV d'Antoine Morand, de même que le prestigieux serre-bijoux de Marie-Antoinette réparti dans 11 caisses. Et avant de partir à Versailles pour son démontage, on fit appel à un restaurateur anglais. De Versailles, le château abritait également de très nombreux portraits historiques, dont une cinquantaine de peintures sur bois du XVIe siècle et près de 70 toiles du peintre François Gérard. Le 20 septembre 1939, Henri Verne adressait ses remerciements à Gaston Brière. « Je veux seulement m'assurer que Madame Brière et vous-même êtes satisfaits de la résidence qui vous est proposée et vous retrouverez des objets chers mais invisibles, sauf s'ils réclament des soins. Je vous remercie de consentir à veiller encore sur eux, dans ce temps de drame qui finira bien. » C'est dans ce contexte relativement optimiste, propre à cette période que l'on nomme la drôle de guerre, que s'installait le couple 2 jours plus tard à Brissac, sous un temps magnifique. Ces derniers avaient le sentiment de revivre, à une autre échelle, leur existence passée à Versailles. La chambre des chasses jouait le rôle du bureau de la conservation, et la grande galerie tendue de tapisserie remplaçait celle des glaces. Les tâches administratives, qui incombaient à l'ancien conservateur, s'apparentait d'ailleurs à celle exercée lors de sa vie active. Malgré cela, Gaston Brière commençait à se plaindre de l'inefficacité des gardiens mis à sa disposition avec l'arrivée des premiers canons le 23 septembre. À partir de cette date, les œuvres de Versailles continuaient à affluer. Le 28 septembre, Gaston Brière demandait à Pierre Ladouet de réduire temporairement l'envoi de caisses de grande dimension afin de lui permettre d'aménager une nouvelle remise. En raison du poids de certaines caisses, l'ancien conservateur craignait pour la résistance des sols et portait une attention toute particulière au fléchissement des poutres. Pierre Ladouet se montrait désireux quant à lui que tout ce qui parte de Versailles soit rassemblé à Brissac, entre les mains de son prédécesseur. C'est ainsi que de nombreuses œuvres transitèrent de Chambord à Brissac, tout en distant de 200 km. Le 7 octobre, Gaston Brière retrouvait avec plaisir son ancien adjoint, Charles Maréchaux-Beaupré, qui convoyait 2 camions remplis du mobilier le plus précieux de Versailles. Malgré la présence de ces trésors, l'ancien conservateur commençait à déchanter. Il avait beau conserver une partie de Versailles, il n'en appréciait que les emballages, le réduisant ainsi, selon ses propres termes, à un simple gardien de caisse, dont il ne connaissait pour certaines ni le contenu, ni la provenance. Les conditions de vie à Brissac, notamment l'absence de chauffage, de gaz et d'électricité, pour certains espaces, commençaient également à lui peser. Il craignait les premières gelées et guettait avec impatience l'arrivée de matériel en provenance de Chambord, notamment des couvertures pour les lits des gardiens, des lampes électriques pour la surveillance de nuit, mais aussi des revolvers. Bien que sensible au fait de contribuer à la sauvegarde de Versailles, Gaston Brière ne pouvait accepter le démantèlement de ce trésor, comme il s'en confia à Henri Verne. J'éprouve une grande tristesse à penser que tant d'objets aimés, tant d'œuvres émouvantes sont là, invisibles sous la paille et le sapin, et j'ai été navrée d'apprendre le sort de mon Versailles, devenu si vide, privé de ses trésors familiers. Le vieil homme était profondément ébranlé d'apprendre l'état dans lequel se trouvait son château, comme il le déplorait encore quelques jours plus tard à l'un de ses amis. Notre Versailles aimé et chanté disparaît dans le passé. Peu après, Gaston Brière était confronté à des problèmes de personnel. Ces contrariétés venaient s'ajouter à d'autres complications d'ordre technique, comme la pénurie d'essence et les difficultés de trésorerie. Le 1er novembre, plusieurs meubles de Trianon, un tapis de la Savonnerie et les tapisseries des Gobelins des grands appartements lui parvenaient de Chambord, suivis quelques jours plus tard de plusieurs peintures et autres dessins, dont beaucoup se trouvaient dépourvus dans l'emballage. Cette vulnérabilité faisait craindre pour leur conservation dans la vieille demeure angevine. À la mi-novembre, il ne cessait de pleuvoir et les températures commençaient déjà à chuter. Dès le mois de novembre, le mois de décembre 1939, il commençait à geler. Le changement d'année apportait ses cartons de bons vœux, dont ceux d'Henri Verne, que l'on avait contraint à une retraite forcée, il écrivait à Brière. Après avoir si heureusement conservé notre Versailles, vous m'avez donné l'exemple de la sagesse, d'abord en prenant un loisir bien mérité et laborieux, puis en revenant dans l'austère Brissac, veillé sur les plus beaux souvenirs de Versailles emprisonnés. Son adjoint, Jacques Jaujard, âgé de 44 ans, lui avait légitimement succédé à la direction des musées nationaux et de l'école du Louvre. La neige tombait abondamment en janvier 1940, recouvrant d'un épais manteau blanc le parc de Brissac. Le froid entraînait le gel des tuyaux. Une nuit, la température tomba jusqu'à moins 15, offrant à peine 2 degrés dans certaines pièces du château. Une amorce de dégel s'amorçait enfin le mois suivant, autorisant quelques vérifications au sein du dépôt. Fort heureusement, aucun dégât n'était constaté sur les caisses. Durant 2 jours, un restaurateur procédait à des sondages, confirmant l'absence d'humidité. Gaston Brière se félicitait également d'avoir reçu de nouveaux papiers d'emballage par l'entremise du Louvre, lui permettant ainsi de protéger les tapisseries de Versailles. Dans un rapport établi le 15 mars, Gaston Brière recensait 65 caisses contenant du mobilier, des objets d'art, des peintures, des dessins, des gouaches et des tapisseries provenant de Versailles. À son grand dam, elle demeurait encore presque 5 fois nombreuses que les œuvres issues de collections particulières. Le charbon et le bois commençaient à manquer quand le printemps s'installa enfin. Après un nouvel examen des œuvres, seul le tapis Don Quichotte était recouvert d'une épaisse couche de poussière. Au début du mois de mai, l'ancien conservateur procédait à son nettoyage, c'est ce tapis-là, ainsi que celui des tapisseries versaillaises, notamment les portières d'Esther. Durant la bataille de France, Brissac voyait affluer les réfugiés versaillais. Dès le 23 mai 1940, 9 gardiens et leurs familles franchissaient les portes du château. Bien qu'envoyés par la direction afin de renverser la surveillance du dépôt, Brière ne savait où loger tout ce monde. Puissions-nous répéter bientôt le beau sonnet de nos lacs sur Versailles sauvé, écrit au lendemain de la Marne salvatrice, se lamentait-il à Pierre Ladoué. Ce personnel supplémentaire lui donnait bien des soucis, d'autant que certains agents commençaient à s'impatienter, désireux de retourner au plus vite en région parisienne. Les jeux des enfants perturbaient, selon Brière, la bonne tenue du dépôt. Le 12 juin, parvenait à Brissac son ancien collègue de Versailles, Pierre Pradel, accompagné de sa famille. En raison de l'aggravation des événements et sous la pression de leur famille, Pierre Pradel et Paul Alfassa proposaient à Gaston Brière de convoyer les œuvres les plus précieuses du dépôt dans le sud, notamment le serre-bijou Marie-Antoinette. L'ancien conservateur, qui ne parvenait plus à joindre la direction des musées nationaux, alors reclinée sur Chambord, écarter leurs projets en raison des risques encourus. Le jour de l'arrivée des Allemands à Versailles, soit le 14 juin 1940, Gaston Brière recevait de nouveaux gardiens et leur famille en fuite. Le vieux conservateur ne pouvait réussir à loger tout le monde à Pessac. L'imminence d'une invasion le rendait particulièrement fébrile, soucieux d'obtenir des instructions claires de la part de la direction. Devait-il évacuer? Et auquel cas en procédant de quelle manière? Uniquement survolé par l'aviation allemande durant la nuit, la région demeurait tranquille pour le moment. Face à l'accroissement des nouveaux arrivants, Gaston Brière devait se rendre au service des réfugiés d'Angers afin d'obtenir du matériel de couchage supplémentaire. L'exode se poursuivait et le secteur voyait affluer d'incessantes vagues de réfugiés à la manière d'un cauchemar. Brière se rendait même à Chambord, pourtant éloigné de 200 km, d'où il essayait de joindre la direction par téléphone. Dans la soirée, Jacques Jaugeard donnait pour instruction de préparer l'évacuation des œuvres les plus précieuses, ce qui supposait le recours à de nouveaux camions. En plus des réfugiés civils, les environs se chargeaient en militaires, plus ou moins errants, des aviateurs de la Royal Air Force, mais aussi des officiers français qu'il fallait également héberger. On possédait des gardiens à chacune des grilles de la propriété. Le 16 juin, les communications avec Paris étaient interrompues. Gaston Brière et ses collègues se mettaient en peine de trouver des véhicules auprès de la préfecture d'Angers. Malgré leurs efforts, seul un camion Bell leur parvenait le jour suivant. Jugeant l'évacuation trop dangereuse, Brière refusait de faire partir les collections. Au petit matin du 18, l'aviation ennemie larguait des bombes sur Brissac, dont l'une atterrissait à quelques mètres des écuries du château, où étaient entreposées plusieurs centaines d'œuvres. L'escadrille mitrailla également la cour haute du monument avant de repartir. Gaston Brière fit aussitôt évacuer dans le camion Ben 22 personnes, dont 16 enfants, vers le château de Saint-Blancard dans le Gers. Pierre Pradel partant en même temps que Paul Alfassa, ainsi que plusieurs autres familles. D'autres gardiens cherchaient à fuir, mais le conservateur, appuyé du brigadier Boudriot, les en dissuadait après des échanges musclés. Le lendemain, la gendarmerie de Brissac était évacuée et l'électricité coupée dans tous les environs. Pendant 2 jours et 2 nuits, les bombardements ne cessèrent pas. Au matin du 25 juin, les habitants du dépôt prenaient connaissance de l'armistice sur un poste de TSF. Peu après, l'agitation faisait place au silence. Les premiers Allemands parvinrent à Brissac le 1er juillet 1940. Une première colonne tenta, vous avez ici une photographie, alors les documents sont rares de la présence allemande dans ce dépôt, on a beaucoup plus de photographies pour bien évidemment pour Versailles. Une première colonne tenta sans succès de faire entrer une centaine de chevaux dans le parc. Après leur passage, 2 agents de la police secrète allemande se présentèrent au conservateur. Dès le lendemain matin, Brière devait leur faire visiter l'ensemble du château et ses communs et leur remettre une copie de l'inventaire. Vous avez là les inventaires de Brissac qui étaient autrefois aux archives des musées nationaux et qui sont maintenant déposés aux archives nationales. Vous avez tout un fonds qui correspond au dépôt de Brissac. Et là vous avez l'inventaire. L'inventaire est classé bien évidemment par provenance et ici vous avez l'inventaire de Versailles avec des annotations en fonction du départ des mouvements d'œuvres. Malgré l'attention posée par cette inspection, Brière reconnaissait l'attitude très correcte des 2 émissaires qui le félicitèrent de la bonne tenue de son dépôt. Avant de partir, ils lui fournirent des affiches en allemand dessinées aux portes du domaine. Censée garantir la sécurité du lieu, elle n'empêchait souvent pas le passage de patrouilles allemandes. Le 3 juillet, les liaisons postales étaient enfin rétablies avec la capitale, permettant à Gaston Brière de confirmer à Jacques Jaugeard l'intégrité de son dépôt, composé alors d'une 15aine de gardiens. Le conservateur songeait d'ores et déjà au retour des collections, s'enquérant auprès de la direction de la façon dont les opérations devaient être conduites. Dans son courrier, il faisait également état des problèmes de trésorerie, car la solde de juin n'avait pas été versée. Sans charbon, l'intendance devenait difficile, notamment pour la cuisson des aliments. Pour remédier au rationnement et la pénurie de matières premières, le système D prévalait. Privé d'essence, Brière faisait adapter la motopompe à l'électricité, ce dont l'en félicitait Jacques Jaugeard, qui fit escale à Brissac le 7 septembre. 11 jours plus tard, le comte de Causse et Brissac, de retour de captivité, remerciait Gaston Brière d'avoir assuré la garde de son château pendant l'invasion. L'arrivée de l'automne minait le moral du conservateur, d'autant que la douceur de l'été faisait place à des pluies abondantes. L'approvisionnement de charbon lui causait bien des soucis, tout comme le remplacement des gardiens, dont la plupart désiraient retourner à Versailles. Comme partout en France, le froid n'épargnait pas Brissac. Le 29 décembre 1940, l'éclatement, heureusement sans gravité, d'une conduite d'eau nécessitait l'ouverture de plusieurs caisses le jour de la Saint-Sylvestre. Le conservateur découvrait alors, non sans une certaine amertume, le contenu de certaines d'entre elles, le déplorant immédiatement à Jacques Laugeard. J'ai constaté aussi, et ceci confidentiellement, que les emballages excellents abritaient des œuvres peu dignes d'Exode. Un certain tableau que je connus à Versailles, faux boucher, représentant une fausse Pompadour, ne méritait pas la protection dont il est l'objet. Des bustes récents ne me semblent pas également dignes d'autant de soins, mais je n'ai pas à apprécier le contenu des caisses de déco. Brissac, se trouvant à proximité de la ligne de démarcation, le dépôt connut une agitation particulière tout au long de l'occupation. Mais comme pour Chambord, un calme relatif marqua l'année 1941 et une partie de l'année suivante. Durant l'hiver, les brières peinaient à obtenir une température positive dans leur chambre à coucher. Ils logeaient dans la chambre Mortemar. Mais ce n'était rien au regard des inondations qui s'infiltraient régulièrement au moment du dégel dans la salle des gardes où étaient entreposées les tapisseries des Gobelins de Versailles. Les visites allemandes reprenaient avec l'arrivée des beaux jours. À la mi-mars, Wolf Metternich, qui était le président du ce qu'on appelle le Kunstschutz, c'est le service de protection des œuvres d'art. Alors Metternich, c'est le personnage qui est en bas à droite, va finalement visiter l'intégralité des dépôts. Il va passer à Brissac et cette visite va lui laisser une excellente impression. Au début de l'été, Brière se rendait à Paris pendant 15 jours. Sur place, il était surpris par les transformations de la capitale. Dans une lettre à son ancienne élève, Marie-Louise Blumer, il confessait ne pas avoir eu le courage de se rendre dans son ancien fief. Comme à Chambord, les sondages opérés dans les caisses confirmaient le bon état des collections versaillaises. Pour parer à l'ennui, Brière poursuivit des échanges épistolaires avec de très nombreux anciens collègues et amis, notamment René Pichard-Dupage, son ancien confrère de la bibliothèque municipale de Versailles, très engagé dans la collaboration. Les échanges qu'il avait avec lui trahissaient une vision pro-germaniste, inusuelle jusqu'alors. Je m'accuse et j'accuse nos éclaireurs de gouvernement et de presse de nous avoir dissimulé la véritable Allemagne actuelle. Mes yeux ont été dessillés par le livre admirable de Rouveau, lu été 1939, puis maintenant la clarté historique m'éblouit par le livre capital de Benoît Méchain, Histoire de l'armée allemande. Je me dis alors, il fallait savoir tout cela, réfléchir au chaos d'où la Germanie était sortie, grâce à l'armée, grâce à Hitler. Et j'avoue que les assez nombreux officiers ici reçus m'ont prouvé une culture véritable, rare, hélas, dans notre actuelle armée. À la fin de l'automne, les tapisseries des Gobelins étaient roulées et emballées avant d'être saupoudrées de naphtaline. De retour à Paris, bien évidemment, on n'utilise plus ce genre de procédé pour la conservation, mais bon, ce sont les principes d'époque. De retour à Paris pour une semaine, Brière évitait une fois de plus le détour par Versailles. Après un début d'hiver relativement doux, une nouvelle vague de froid intervenait à la fin du mois de janvier 1942. Une fois encore, le dégel entraînait des dégâts sur la plomberie avec éclatement de conduite. Face aux difficultés, une entraide se manifestait entre les dépôts. Le 7 mars, Brière se rendait pour la première fois à Versailles depuis juillet 1939. Ce retour suscitait une grande émotion chez l'ancien conservateur. Le brillant décor de fête ne supporte pas l'arrachement des ornements, regrettait-il. Sur place, il ne pouvait que constater par lui-même ce dont il redoutait depuis des mois. Entre ce triste spectacle et la famille des Parisiens, Brière se félicitait de devoir retourner sur Brissac. Il devait cependant revenir dès le mois de mai dans la capitale, après sa nomination comme membre du Conseil des musées nationaux. De retour dans son dépôt, il mettait également en ordre ses archives versaillaises, ce qu'il n'avait pas eu le temps d'effectuer à la fin de son activité professionnelle. Même dans l'Anjou, les hausses des prix, les difficultés d'approvisionnement et les pénuries commençaient à se faire sentir en raison de la sécheresse. Vers la fin de l'année, ressurgissaient de nouvelles menaces de réquisition du château ou de ses dépendances. La région, devenant un centre de ravitaillement militaire, Une partie du parc de Brissac fut utilisée pour le stockage de canons et de matériel, dont un dépôt de munitions. La perspective d'une invasion par l'Ouest inquiétait fortement Brière. Ce dernier écrivait à ses anciens collègues de Versailles « Je suis peu rassuré sur mon château à cause de la proximité de l'océan et aussi par l'envahissement des armes et les exercices militaires qui s'y déploient. Je ne sais si désormais les gobelins ne seraient pas mieux dans Versailles même. Un seul avantage ici, l'absence d'humidité pernicieuse si redoutable par les hivers. » Avec la réduction du nombre de dépôts, décidée à l'automne par les musées nationaux et avalisée par le Kunstschutz allemand, Brissac voyait affluer de nouvelles collections. Alors que Brière avait désormais en charge la fameuse tapisserie de l'Apocalypse, il procédait de nouveau à l'examen de toutes celles provenant de Versailles. Entre les 8 et 9 novembre 1942, les troupes d'occupation quittaient Brissac et Quincé après l'ouverture d'un nouveau front en Afrique du Nord. Les camions et leur matériel, notamment les dépôts de munitions, étaient enfin évacués du parc. Les événements politiques laissaient une grande amertume à Gaston Brière. Jamais l'esprit et le cœur ne furent plus atteints profondément d'angoisse et d'amertume. Après l'invasion africaine, après la félonie, la trahison, les ambitions déchaînées, tout le monde, la honte et la misère. Plus d'armée, plus de marine, plus de colonies. Et l'on trouve des gens qui se réjouissent. Ils n'auront pas cela. Pauvres sots qui croient aux paroles des gens de proie et qui supposent que des ruines renaîtront des richesses. Nous sommes mûrs pour la servitude qui va s'étendre. Qui seront les maîtres? Le destin est encore incertain, mais la certitude est dans l'esclavage économique et intellectuel. La jeunesse a de sombres perspectives d'avenir. Que dit-il? Si le combustible ne manquait pas durant cet hiver, une grande mélancolie s'emparait d'anciens conservateurs qui commençaient à regretter la présence de l'occupant. Je monte la garde en calme, et maintenant, la solitude, après quelques mois de fréquentation des forces allemandes. Je tiens à dire aussi qu'en cette seconde occupation, les soldats et leurs chefs furent d'une parfaite correction vis-à-vis de tous. Brière s'inquiétait de la tournure des événements politiques au début de l'année 1943. La perspective de la défaite allemande lui inspirait les plus grandes craintes. Son discours se teintait désormais d'un discours très clairement pro-germaniste. Personne des gouvernements postérieurs, de plus en plus ignorants, n'a vraiment proclamé au Parlement le dessein, l'esprit de la révolution allemande. Et aujourd'hui, les 9 dixièmes de nos concitoyens ignorent la véritable Allemagne. Ici, le séjour de soldats et d'officiers a dessillé les yeux et tel qui criait haro aujourd'hui, est tout aimable pour les individus fréquentés. Une certaine lassitude s'emparait de lui, et il se qualifie à présent d'exilé angevin. Si la région demeurait encore relativement calme, il craignait pour la conservation de certaines œuvres, et notamment la présence des rongeurs pour les tapisseries. En mars 1943, Brière voyait les bombardements se rapprocher de la vallée de la Loire, redoutant le pire pour l'avenir. Le mois suivant, il ressentait les secousses des bombardements de Nantes et de Saint-Nazaire jusqu'à Brissac. Le 17 septembre, il accueillait en provenance du dépôt de Sourches 8 nouveaux meubles de Versailles, dont une partie d'entre eux se trouvait sans emballage. Faute de mieux, donc vous avez notamment ce bureau de Veringen. Faute de mieux, on les recouvrait de vieux rideaux retrouvés dans quelques pièces désaffectées du château. Jusque-là épargné, des difficultés d'approvisionnement de charbon se profilaient pour le château de Brissac. Le conservateur craignait pour les collections lors des contrôles, de même que les actions toujours croissantes menées par les résistants dans la région. Il continuait parfois à se rendre à Paris, notamment en février 1944, à l'occasion d'un comité des musées nationaux. Au printemps, Brière se réfugiait dans le travail. Son esprit demeurant totalement accaparé par Versailles, dont il continue à étudier l'histoire. Afin de l'épauler dans sa lourde charge administrative, on lui attribuait le soutien d'un nouvel adjoint, trouvé en la personne du jeune peintre Jean Cortot. Alors ici vous avez une photo de l'article, il est un peu plus récente, fils du célèbre musicien Alfred Cortot, connu pour ses relations avec les milieux nazis. Son arrivée n'enchantait guère Brière, qui se demandait ce qu'il allait bien pouvoir faire de ce jeune homme, dépourvu d'expérience. Dans la région, la situation ne cessait de s'empirer. Dans la nuit du 29 au 30 mai 1944, l'aviation alliée procédait au bombardement d'Angers, situé à moins d'une vingtaine de kilomètres. Le lendemain de ces attaques, Brière faisait part de son soulagement à Jaugeard. On se rend compte de l'utilité des évacuations. Jusqu'à présent, nos dépôts ont été dédaignés des escadres aériennes. Dès le 6 juin, Brière devait gérer un nouvel afflux de réfugiés venant réclamer un toit suite au bombardement de la ville d'Angers. Entre le 7 et le 14 juin, le courrier était suspendu. Si les troupes cantonnées quittaient Brissac, elles revenaient moins d'une semaine plus tard en réquisitionnant une partie du parc du château pour y installer un champ de mines. En apprenant la nouvelle, Brière alertait aussitôt le Kulschutz. Faute de liaison postale, il envoyait son adjoint Jean Corteau porter la lettre à Angers, qu'il rédigeait lui-même en allemand avec l'aide de son épouse Clotilde. Le conservateur prévenait également Jacques Jaugeard, l'informant de la dangereuse proximité des bombardements. Les avions anglo-saxons passent sans cesse de jour, plus souvent de nuit, et bombardent moins de Brissac, écrivait-il. Malgré l'intervention du service du Kulschutz, impuissant à mettre fin au projet de la Wehrmacht, les travaux dans le parc se poursuivaient, et les mauvaises nouvelles ne cessaient de tomber. Suite au bombardement d'Angers, l'équipement des pompiers de la ville avait été anéanti, et Brière ne pouvait malheureusement plus compter sur eux en cas de sinistre. L'eau potable venait également à manquer. Conscient du caractère désespéré de la situation, le vieil homme écrivait à son ancienne assistante à Versailles afin de lui expliquer où récupérer des documents importants pour le château s'il venait à disparaître. Peu après, les environs étaient envahis par la Wehrmacht en repli. Brière s'inquiétait de l'absence de communication et de l'attitude à observer en cas d'arrivée des anglo-saxons, interrogeant avec circonspection Jacques Jaugeard. Et en cas de seconde occupation par les libérateurs, aura-t-on des contrats passés avec eux? Sont-ils arrivés dont il était vraiment dépourvu toute communication à ce sujet? Même s'il redoutait l'arrivée de nouveaux conquérants, son opinion sur Hitler laissait néanmoins apparaître une forme de désenchantement sur celui qui préférait s'ensevelir dans les ruines plutôt qu'admettre une défaite. C'est le héros cornélien du mal, confiait-il à l'un de ses amis. Le 23 juin 1944, le bombardement de la gare de Quincé faisait éclater plusieurs vitres dans le château. Conformément aux directives, Brière s'apprêtait à suivre les directives de Paris, à savoir de descendre les caisses dans les sous-sols du château. Mais le dispositif ne lui semblait pas adapté en raison de l'insalubrité des espaces. Dans le parc, les travaux d'installation du champ de mine avaient repris après plusieurs jours d'arrêt, ce qui ne manquait pas d'éveiller chez lui de nouvelles craintes. Faute de recevoir des consignes de la part de Jacques Jaugeard et face à la détresse de Brière, Jean Corteau acceptait de partir à Paris, distant de plus de 350 km, à vélo, afin de lui porter en main propre la lettre du conservateur. Dans cette dernière missive, Brière lui dressait un rapport de la situation et les éventualités offertes. En conclusion, il lui confiait ses dernières volontés, déjà consignées dans un testament officiel, l'informant du don de ses biens aux musées nationaux et à l'école du Louvre. Après le départ de Corteau, il n'y avait donc plus qu'à attendre. Alors que les bombardements continuaient aux alentours, de plus en plus de troupes allemandes en déshérence se présentaient à la porte du château. Le 30 juin, le jeune homme arrivait enfin à Paris après avoir effectué quelques trajets en autostop. Il remettait le précieux pli à Jacques Jaugeard, qui s'opposait immédiatement à toute évacuation du dépôt en raison du trop grand danger des transports. Puisque toute évacuation de Brissac était exclue, Jaugeard proposait de disperser les caisses dans les endroits les plus sûrs de la bâtisse, notamment dans les sous-sols et au rez-de-chaussée du château. D'autre part, il engageait des pourparlers avec le service du Kulschutz afin de tenter de suspendre le minage du dépôt. En retour, il confia à Corteau une lettre pour Brière, dans laquelle il faisait part de son émotion non dissimulée à l'annonce des dispositions voulues par Brière. Ai-je besoin de vous dire combien j'ai été émue en lisant le passage de votre lettre me confirmant vos intentions généreuses à l'égard de nos musées? Je serai qu'après leur avoir consacré toute votre science et toute votre activité, vous estimez que votre don n'est pas encore suffisant. Laissez-moi vous dire que nous félicitons tous à la pensée que les musées nationaux bénéficieront pendant de nombreuses années encore de votre compétence et de votre dévouement avant de recevoir les autres bienfaits auxquels vous voulez pourtant songer. Donc, Jaujard se nomme vraiment rassurant à l'écart de Brière. À Brissac, Brière redoutait pour toujours les conséquences d'une nouvelle occupation et les changements apportés dès les premières heures. Je rentre mon affiche allemande et je sors ma pancarte anglaise, dénuée d'explications complémentaires, se préparait-il avec peu d'entrain. Les nouveaux conquérants feront-ils preuve d'autant de tact que les précédents? En tout cas, Brière ne leur pardonnait pas le saccage de la Normandie. Après quelques jours de calme, les activités militaires reprenaient à partir du 11 juillet. À Paris, les pourparlers menés par Jacques Jaujard avec le Kulschutz avaient fini par payer. 5 jours plus tard, les hautes autorités allemandes interdisaient tout usage militaire du château de Brissac et de son parc. Quelques jours plus tard, les installations délimitant le futur champ de mine étaient enfin retirées. Conforté par ce retour en arrière inespéré, Brière songeait enfin un retour possible des caisses avant l'hiver. Mais le 11 août 1944, les événements s'obscurcissaient une nouvelle fois. Une compagnie de SS errant dans les environs tirait à bout portant sur Jean-Baptiste Fauché, un des gardiens du château de Versailles, alors qu'il se trouvait sur le perron de Brissac. 2 jours plus tard, un bombardement se produisait à proximité du château, puis le calme revenait enfin dans le secteur. Dès le 1er septembre 1944, le château de Brissac était libéré et pavoisé. Peu après, Gaston Brière recevait la gendarmerie une nouvelle affiche rédigée en français et en anglais, qu'il devait de nouveau placarder à l'entrée de son dépôt. À la fin du mois de septembre, il tombait malade de soucis, selon le diagnostic de sa propre femme. Remis sur pied quelques jours plus tard, il se retrouvait de nouveau sans adjoint, Jean Corteau étant quant à lui autorisé à quitter ses fonctions. Après l'armistice de mai 1945, Brissac contenait encore toutes les œuvres versaillaises, dont la seule évacuation nécessitait 5 camions. Leur déménagement s'organisait à partir de la fin de l'été. En premier lieu, Brière sollicitait à ses anciens collègues de Versailles les clés du bureau de Röntgen afin de pouvoir fermer les tiroirs durant le transport. Les 13 tapisseries de la histoire du roi partaient les premières à la mi-septembre. Mais les problèmes de santé du conservateur ralentissaient les évacuations durant l'automne. Elle reprenait finalement le 12 décembre avec l'envoi de 20 nouvelles caisses déballées à leur arrivée à Versailles dans la salle Marivaux. Mais il restait encore à Brissac 45 caisses, dont 6 pour les seuls gouaches de Van Blarenberg, 13 meubles provenant des Trianon et 5 rouleaux de tapisserie. À la mi-janvier 1946, un nouveau convoi prenait la route pour Versailles, notamment le fameux bureau de Louis XVI Waringen. Par là se termine, je crois, la rentrée du bercail, des brebis égarées, mais sauvées, se félicitait Gaston Brière. Un second convoi suivait le 19 janvier, composé de 35 pièces, 13 petits meubles différents et 22 caisses, dont 7 contenant les parties composant l'armoire à bijoux de Marie-Antoinette. Ne restait alors à Brissac que des pendules et des tapisseries. Le 21 janvier, un camion emportait 17 nouvelles caisses et 4 rouleaux de tapisserie, mais ne pouvait malheureusement tout emporter. 6 caisses restaient encore à évacuer, dont 5 pour la seule pendule à musique d'Antoine Laurent et une pièce de l'histoire d'Esther. Mais le transfert était de nouveau interrompu à la fin de l'hiver en raison des soucis de Gaston Brière, qui a été hospitalisé à Angers, couplé au mauvais état des routes. Le 12 mars 1946, ses dernières œuvres partaient enfin sur Versailles, mettant fin au dépôt dès le mois suivant. Alors donc, Brissac, mon de Brissac, au printemps 1946, je voulais parler quelques mots sur finalement la consécration de ces dernières années. En 1948, il effectue son premier voyage aux États-Unis. En 1957, il est élevé à la dignité de commandeur de la Légion d'honneur. Et enfin, en 1958, il reçoit de la Société des Arts et Lettres cette médaille à son effigie, dans la galerie du château, dans la galerie basse. Le doyen des conservateurs des musées nationaux meurt en 1962 à l'âge de 90 ans. en léguant une partie de ses biens, c'est son épouse, qui lègera l'intégralité de leurs biens quasiment au musée national. Donc si Gaston Brière reste largement inconnu du grand public, sa postérité réside encore aujourd'hui dans l'héritage qu'il laissa à la conservation du musée, ainsi que dans l'immense bibliographie léguée aux spécialistes et aux chercheurs. Doté d'une très vaste érudition, Gaston Brière inspirait le plus grand respect à ses confrères, collègues, élèves et amis qui beaucoup l'appelaient maître. Il me semblait donc indispensable de rendre un juste hommage à cet homme qui consacra une grande partie de sa vie à Versailles. Merci.
Cet étude est passionnant. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Est-ce qu'il y a eu des vols à Versailles? Parce que je suppose que tout n'avait pas été évacué.
Oui.
Donc pendant l'occupation allemande, est-ce qu'il y a eu des...
Alors, il y a eu quelques dommages, mais des vols en tant que tels, non. Ce sont des arrachements principalement de soldats allemands. Mais il y a quand même, c'est vrai que... il y avait une crainte, bien évidemment, que les Allemands, puisque c'était bien évidemment eux qui occupaient les grands appartements, viennent spolier, viennent arracher. On a quelques vols, mais qui sont quand même, de menu larcin. Ce sont plus des dommages qu'ils ont créés. Ils ont par exemple endommagé en juin 1940 la porte de l'angle de la chapelle. Il y a bien évidemment pour Versailles une revanche à prendre pour les Allemands avec le traité de 1919. Et beaucoup d'Allemands viennent pour... il y a tout un pèlerinage, c'est vrai que je pourrais... c'est pas mon ordinateur, donc je ne peux pas montrer les photos. Mais il y a un vrai pèlerinage, il y a des centaines et des milliers de soldats allemands qui sont déversés dans la cour pour justement venir fouler le parquet de la galerie. Et plusieurs viennent vraiment tambouriner, alors parce qu'on leur donne à peu près l'emplacement de la signature, et ils viennent se venger. Alors, il y a vraiment ce double regard, il y a vraiment des esthètes et de véritables connaisseurs et amateurs qui viennent et qui, bien évidemment, font vraiment de mal au monument. Et vous avez d'autres soldats, mais on aura la même chose à la Libération avec des soldats américains. Donc, il n'y a pas de vol proprement dit, et toutes les collections qui ont été mises en dépôt, en protection dans les dépôts, vont rejoindre Versailles, bien évidemment. Alors au départ, certaines œuvres vont rester dans dans leur caisse, et on va, c'était un tel travail de les sortir, ne serait-ce qu'en termes de place. Ça va prendre beaucoup de temps, mais il n'y a pas eu de véritable de dommages ou de vol.
Merci.
Je vous en prie.
Même les hommes qui ont autant exposé les dangers dans les dépôts que dans la salle.
Alors, bien évidemment, dès le début des années 30, il y a vraiment toute une réflexion qui est menée au sein des musées nationaux. Pour savoir comment pouvait-on protéger Versailles. Et il est vrai qu'il y a vraiment une caractère d'exception dans les mesures qui ont été prises. Alors au Louvre, c'est la même chose, hein. Il y a une grande partie des collections qui vont partir en exode dans des châteaux, notamment il y a plusieurs châteaux dans le sud, qui vont abriter les œuvres, c'est-à-dire les collections de Versailles, elles vont migrer, mais entre Chambord et Brissac.
Elles n'ont pas été dans les autres dépôts.
Elles n'ont pas été dans les autres dépôts. Et par exemple, vous avez la Joconde qui, elle, va migrer de dépôt en dépôt. On n'a absolument pas ça pour Versailles. On n'a pas ça. Et on a essayé de juger de l'importance des protections au vu de la menace qui préexistait, bien évidemment.
Mais souvent les œuvres d'art ont avancé l'invasion.
Mais finalement, par la suite, et c'est ce qui va coûter le poste de Patrice Ladouet, Patrice Bonnet, excusez-moi, l'architecte en chef, c'est qu'il va mener toute une campagne qui n'a pas lieu, en tout cas à cette échelle-là, dans les autres monuments historiques, de dépeçage des boiseries, les boiseries de Versailles, donc de la chambre de la reine, boiseries du conseil, vont partir. Alors certes, elles vont être démontées de façon précautionneuse, mais il va y avoir tout un véritable scandale, d'autant que finalement certaines vont être mises en danger parce que dans les châteaux, les châteaux en tous les cas sélectionnés par les musées nationaux ne vont pas être envahis, il y a une véritable protection. Il va y avoir des officiers, des soldats qui vont passer pour vérifier que tout se passe bien, mais par exemple le château de Sourche ou le château de Bourré vont être envahis par les Allemands, qui sont des demeures privées. Et notamment pour Sourche, on va envoyer les boiseries, les caisses de boiseries qui vont gêner les Allemands, vont les envoyer à la préfecture d'Angers, qui ensuite vont être rebalancées dans d'autres lieux parce qu'elles gênaient le préfet. Et il est évident que certaines œuvres ont sans doute subi, était peut-être plus en danger en exode plutôt qu'à Versailles, mais c'était un danger qu'on ne mesurait pas, en tous les cas, au moment du déclenchement.
Oui, parce que la politique de l'équateur, c'était bien une évacuation totale de tout le monde.
Alors, il y avait une évacuation totale, mais par, si vous voulez, il y avait différents degrés d'urgence. On identifiait, les premières lignes sont vraiment conçues de cette manière. Vous avez les œuvres, les chefs-d'œuvre qui vont constituer les premiers départs de première urgence, et ensuite, par, on va dire, importance
décroissante.
Voilà, décroissante. Par exemple, à Versailles, les sculptures vont partir, vont être entreposées dans le parc des Versailles. Versailles va vraiment être un lieu complètement vidé. En tout cas, quand les Allemands arrivent, ils sont déçus de voir l'état dans lequel ils trouvent le parc, dans l'état dans lequel ils trouvent les fontaines. Ils s'attendent à avoir un lieu tel que l'imagerie le véhiculait, très vraisemblable que Hitler pensait signer la paix dans la Galerie des Glaces. Donc les Allemands vont pousser à la restauration de la Galerie des Glaces, donc tous les ponts avaient été également démantelés pour justement pouvoir assurer cette cérémonie qui est justement jamais faite.
Le château de Valenciennes aussi,
château de Valenciennes, et il n'y a pas eu d'œuvre de Versailles. Et le château de Valenciennes, un des gardiens de Versailles, figure de protection sous dépôt, était à Van der Kemp.
C'est ça. Ça
Et il n'était pas encore à Versailles.
Il y a eu chaud au moment de la libération, parce que c'est un
accident. Oui. Bah, tous les châteaux devaient vraiment se prémunir, et on sent bien cette angoisse, c'est quand je pars finalement de témoignages un peu croyants de Versailles, c'est que finalement, pour lui, son constat, c'est que les Allemands n'ont fait aucun tort aux collections, et il voit arriver des bombardements et un saccage, et c'est ce qu'il redoute le plus. Après, bien évidemment.
Mais c'est sûr que l'établissement de Chaugère a une relation très particulière, et ils ont fait très attention, tous les deux, à préserver au maximum, parce que même quand Guillaume disait ça, Metternich a donné son appui pour que les œuvres restent, qu'elles ne soient pas
partent pas. Metternich a été le seul haut gradé allemand à être décoré par le général de Gaulle après guerre, justement pour la
francophilie.
Forcément, ils étaient plus ou moins de mèche. Leur intérêt commun, c'était de protéger les œuvres nationales, tant du côté français que du côté allemand. D'ailleurs, quand il est question d'opérer des transferts entre des collections françaises et allemandes, il va y avoir des connivences et même tous les conservateurs vont s'opposer à ces transferts parce qu'on ne pouvait pas justement dire ah ben, on vous laisse telles œuvres parce que les Allemands étaient très intéressés par les collections germaniques, notamment par exemple l'hôtel de Bâle de Cluny, ce sont ces œuvres-là qui les intéressaient. Donc à un moment donné, on leur dit ah ben, on va, si vous nous donnez ces œuvres-là, on échange, on pourrait vous donner l'enseigne de Gersin de Watteau. Mais finalement, ces échanges n'auront jamais lieu. Mais tout cela, sans doute, grâce aux très très bonnes relations entre Jaujard et Metternich. Metternich qui va être quand même à un moment évincé. Notamment par Göring, il avait de très mauvaises relations avec Göring et le RR. Ah bah, il a été accusé de francophilie par ses supérieurs, bien évidemment. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question.
Donc, le prochain Angers, il vient d'où? Il vient pas d'Allemagne. Et puis le Louvre, va arriver, je sais pas où, enfin, c'est
extraordinaire. Lance.
Le dépôt. Le dépôt, il y a une partie qui est rapportée par le dans la paix, sur le couleur, en plein milieu.
Après la guerre, les méthodes de guerre ne seraient plus les mêmes. Je pense que les aussi.
Je n'attends pas de réponse. Enfin, c'est quand même.
Enfin, comment pensez-vous? Ils ont quand même tout le ménager, y compris les gens de Passamague.
Oui. Oui.
Tout ça, ça avait quand même été préparé bien avant, parce que en fait, ces œuvres-là, je crois bien qu'elles sont même parties avant la déclaration.
Certaines partent en tout cas pas pour Versailles, tout part à partir de la fin août, entre la fin août et même 1940. On doit stopper d'autres campagnes, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'œuvres parviennent à Brissac, elles sont dépourvues de tout emballage, parce qu'il y a une telle précipitation, c'est vrai que au moment de l'invasion allemande, on pense, enfin, on a toujours l'espoir que les choses vont se rétablir, donc certaines œuvres vont partir, mais on va dire au petit bonheur la chance, dans des camions à peine protégés. C'est vrai qu'aujourd'hui on prend mille précautions pour le transport des œuvres d'art. À l'époque, je ne suis même pas sûre qu'il y ait eu des tamponnages, à défaut de caisses. Hein. Un tamponnage, ce sont des cartons renforcés. Donc, disons que les dangers venaient aussi, alors outre bien évidemment les bombardements par l'aviation, mais aussi par les dangers causés par les dégâts des transports, parce que c'était des équipements qui étaient non adaptés.
Bon, allez, essayez de gérer ça. C'est un livre passionnant.
Oui.
Ah, vous connaissez, j'imagine.
Ah oui, je connais.
C'est vraiment une source
incroyable.
À chaque page, vous avez ce qui se passe au jour donné, sur le plan politique, sur le plan de guerre. Et sur l'autre page, vous avez tout ce qui se passe au niveau du passant des œuvres. Sinon, on voit que la Joconde a une durée pour le
voir. Oui,
les grands musées.
Toutefois, il est difficile à travers son ouvrage de suivre le périple des œuvres versaillaises.
Ah oui, il n'y a pas beaucoup de choses
Il y a quelques passages, c'est vrai qu'ils se consacrent beaucoup aux collections du Musée du Louvre. Et c'est vrai que l'ouvrage sur lequel je suis en train de travailler va vraiment porter sur à la fois l'histoire des collections dans les dépôts de province, mais aussi toute l'histoire du château. Les visites allemandes, c'est une période qui était très peu connue jusqu'alors. Et voilà, j'ai eu la chance de commencer à travailler avec le fonds d'archives de Brière à la bibliothèque Doucet. Et de fil en aiguille, c'est vrai que ça a été pour moi une aventure passionnante, parce qu'on trouve des lettres, on se dit ah bah il y a forcément des réponses quelque part. Et voilà, j'ai trouvé, il y a énormément de lettres, que ce soit donc à la bibliothèque Doucet, Vous avez des lettres aussi, bah, toutes les lettres, les échanges entre Pierre Ladoué et Gaston Rillard qui se trouvent à la bibliothèque de l'Arsenal. Alors dans les archives allemandes, moi j'ai trouvé principalement des documents ou des photographies pendant l'occupation. Mais c'est beaucoup plus nuancé, bien évidemment, que ce qu'on peut croire. Il y a l'ouvrage de justement Pierre Ladoué, Versailles fut sauvegardée. C'est vrai qu'il donne une image un peu. Bon, c'est son témoignage. Il va n'être présent qu'une partie du conflit. Hein, mais il donne une image assez noire, ou disons assez dure de l'occupant allemand. Il y a de toute façon, rien n'est jamais ni blanc ni noir. Il y a eu vraiment des passionnés, il y a des photographies, on voit vraiment des. Alors, il y a une partie propagande, hein, des soldats qui viennent admirer. Et on retrouve dans les lettres de soldats à leurs épouses qui rapportent j'ai visité Versailles, c'est magnifique. Tout est dit.
Oui, on vous invite à poursuivre l'échange pour ça nous a côté.
Merci.